Ce matin, je veux regarder avec vous et dans la dimension et j'ai donné le texte ou plutôt le titre de ce matin. Dieu a une parole pour toi. Et quelle bénédiction de savoir que Dieu est un Dieu qui veut nous parler, que Dieu est celui qui veut se révéler à nous, que le Seigneur est celui qui veut nous faire se faire connaître et de nous amener à réaliser et de prendre conscience. Comment bien sûr il est un grand roi, mais comment aussi à travers ce que Dieu veut déclarer à l'intérieur de nos vies, il est concerné à travers ce que l'on vit. Des fois, c'est vrai qu'on aimerait peut-être l'entendre plus encore dans des situations particulières. On aimerait que Dieu puisse nous parler de façon très tranchante, dans le sens de sans ambiguïté de rien, et que tout soit tellement clair. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi une portion de foi. Et en même temps, il y a aussi une portion de sagesse. Et en même temps, il y a aussi une portion de se rappeler, de se remémorer la parole de Dieu à l'intérieur de nos vies ou encore ce qu'il a déclaré et de marcher dans cette base. J'ai appris, alléluia, à l'intérieur de ma vie de comprendre et de réaliser, je continue à l'apprendre toujours en fait, c'est que lorsque Dieu a déclaré tout quelque chose, lorsque vient le temps d'autre chose, le Seigneur est celui qui déclare de façon claire, sans ambiguïté. Et jusqu'au moment où Dieu le fera, j'ai besoin de marcher dans la direction de ce que Dieu veut faire et accomplir à l'intérieur de nos vies. Mais nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de recevoir cette parole-là à l'intérieur de nos vies pour qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous encourager, qu'elle puisse nous relever, nous restaurer, nous reprendre, nous corriger, nous enseigner. Et ce matin, j'aimerais aussi parler, bien sûr, de la Bible, alléluia, de l'importance de cette parole-là à l'intérieur de nos vies, qu'on doit lui donner cette autorité à l'intérieur de nos vies, de nos décisions de maison, de nos décisions de foyer, dans notre façon de vivre, de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer dans nos situations particulières avec les gens que l'on côtoie, dans notre vie personnelle, dans des situations dans lesquelles on se retrouve. Et quel glorieux livre! Je pense que j'ai tendance quelquefois à oublier la grandeur et la réalité, la beauté de la parole de Dieu. Mais en même temps, je veux, à chaque matin ou chaque journée, lorsque je prends un moment pour lire la parole, que je prends un moment pour ouvrir la parole ou encore de regarder sur mon téléphone cellulaire ou ma tablette, de commencer à lire la parole, de comprendre que c'est un livre merveilleux, que Dieu est en train de se révéler à ma vie, que Dieu est en train, à ce moment-là, de vouloir déclarer quelque chose à mon cœur, que le Seigneur est celui qui veut parler à l'intérieur de ma vie. La Bible, alléluia, est celui qui est le livre qui est le plus lu dans le monde entier. Il y a environ 2,5 milliards d'exemplaires de la parole de Dieu qui ont été vendus au niveau de la planète Terre. On estime à peu près à 4,7 milliards de Bibles complètes ou partielles qui ont été imprimées. Bien sûr, lorsqu'on regarde dans les années dernières, en une année, on dit qu'il y a 50 millions de Bibles entières ou partielles qui ont été diffusées. C'est le livre le plus traduit en plus de 2454 langues. En fait, il y a 90% des humains sur la Terre qui ont la possibilité de lire une Bible entière ou en portion ou une parcelle qui a été traduite dans leur langue. Et pourtant, c'est le livre, alléluia, qui a bien sûr le plus influencé toute l'humanité, qui a influencé la vie des gens, qui a influencé la personne des gens, leur vie personnelle. Et à travers ça, pourtant, c'est l'un des livres, alléluia, qui a connu le plus de persécutions sur la terre. C'est le livre qui a été le plus brûlé, où l'adversaire, où les allégeants, où les détracteurs se sont levés contre la parole. Mais pourtant, à travers les années, la parole de Dieu est celle qui a subsisté, qui a tenu bon, qui est encore là aujourd'hui, et elle est encore le livre le plus lu sur la terre. Et je pense ceci, je pense pas que la parole d'abord et avant tout est la plus lue sur la terre parce que juste un beau livre à lire. Mais je pense que la parole de Dieu est le livre le plus lu sur la terre parce que c'est celle qui change le plus la vie des gens, qui a eu le plus une transformation dans la vie des personnes et dans la vie des gens, qui a eu un impact et une influence qui a changé, bien sûr, le cours d'une société, qui a changé le cours de mariage, de vie personnelle, qui a transformé. Et dans Isaïe, chapitre 55, le verset 9, C'est un beau passage qui nous parle de cette parole-là de Dieu, alléluia, de la parole du Seigneur. C'est dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ce texte-là nous parle de la parole de Dieu, de l'efficacité, de la puissance qu'elle a à l'intérieur de nos vies et qu'elle doit avoir à l'intérieur de nos vies. La parole, c'est une parole de vie, elle est vivante, elle a un impact. Ce texte-là nous parle d'une dimension, d'un impact à l'intérieur de la vie, alléluia, de la personne. Ce matin, il y a eu une parole à travers la louange. Il y a eu une parole prophétique à travers la louange. Je veux dire à qui ça s'adresse ce matin. Prends cette parole-là comme une parole qui vient de Dieu, qu'elle n'est pas seulement pour quelque chose que tu te rappelles, mais qu'elle a un impact à l'intérieur de ta vie, qu'elle augmente, qu'elle déverse, qu'elle édifie ta foi, qu'elle t'amène à comprendre, alléluia, toute la dimension que Dieu veut faire et accomplir à l'intérieur de ta vie et de la situation qu'il y a à l'intérieur de ta vie et de sachant qu'il n'y a rien d'impossible de la part de l'Éternel, qu'il n'y a rien d'impossible de la part de Dieu, qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, que Dieu est celui qui peut faire toutes choses bonnes et glorieuses à l'intérieur de ta situation. Alors, si Dieu t'a parlé ce matin, si le Seigneur s'est révélé à ton cœur, pour moi, il y a deux dimensions importantes, là. Il y a la dimension que Dieu te connaît bien, que Dieu sait ce que tu passes, que Dieu connaît bien tes situations à l'intérieur de ta vie. Mais non seulement ça, mais qu'il déclare la capacité de ce qu'il peut entreprendre à travers ta vie et à travers cette situation à l'intérieur de ta vie. Parce que Dieu est celui qui peut faire toutes choses bonnes et glorieuses à l'intérieur. Il y a une parole de vie, elle a une puissance. Dans le verset 11, ça dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Cette parole-là, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a un impact lorsqu'elle déclare, et le texte dit qu'elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, alléluia. Comprenons que la parole de Dieu, c'est une parole qui est déclarée par un Dieu qui est tout puissant, dont rien ne lui est impossible. Celui qui déclare, vous savez, aujourd'hui, peut-être je pourrais vous dire certaines affaires, alléluia, puis que je n'aurais pas la possibilité d'accomplir. J'aurais pas la possibilité de faire, je pourrais vous faire une promesse, mais dans la réalité, je n'ai pas la capacité de répondre à cette promesse. Mais ce que Dieu déclare, la Bible dit, alléluia, que Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Les choses sont arrivées. Ce qui était impensable, inimaginable, se sont arrivées. Et le texte dit qu'elle ne retourne point à Dieu sans avoir accompli son œuvre. La parole que Dieu a déclarée ce matin, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son œuvre et sans avoir eu cet effet à l'intérieur. La mission. Je vais vous dire que la parole de Dieu a une mission. Quand Dieu a déclaré que la terre soit et la terre fut, il y avait une mission. La mission était une mission de création. Et les choses sont arrivées. Alléluia. Quand Dieu va dire par rapport avec Moïse à Pharaon de laisser aller son peuple, la mission était la délivrance pour son peuple. Les choses sont arrivées. Les choses se sont passées. Parce que lorsque Dieu déclare, il y a une mission, c'est une parole vivante, vivifiante, qui transforme et qui change les choses à l'intérieur de la vie. Elle a un but ultime, cette parole-là. Lorsque Dieu déclare, elle a un but d'accomplissement à l'intérieur de ta vie. Le but premier de la parole n'est pas, d'abord et avant tout, une information. Eh bien, qu'elle est, ça peut être, il y a une dimension théologique, mais le but d'abord et avant tout n'en est pas d'une information théologique, mais plutôt d'une transformation à l'intérieur d'une vie. Vous savez, la parole de Dieu, Dieu n'est pas dans un débat dans la Bible pour prouver son existence. Il déclare qu'il existe. Dieu n'est pas dans un débat pour prouver quelque chose. Il déclare ce qu'il est. Dieu ne veut pas seulement prouver dans la dimension, il le prouve, il le fait, mais il déclare ce qu'il est. Il déclare qu'il est plein d'amour. Il déclare, alléluia, qu'il est possible d'être sauvé par Jésus-Christ. La parole n'a pas d'abord été donnée pour faire de grandes théologies ou de faire de grands théologiens, mais plutôt pour faire des chrétiens transformés. Jésus n'a pas enseigné ses disciples pour faire d'eux des grands théologiens, mais de faire des disciples de Jésus-Christ. Le problème n'est pas d'être des théologiens, mais le problème c'est d'être des théologiens sans avoir la vie transformée et changée. Le problème n'est pas de connaître, de savoir les choses de la parole, mais plutôt, alléluia, que ce savoir n'est pas traduit dans un changement et dans une transformation à l'intérieur de nos vies. Dans Matthieu, chapitre 23, le verset 1, « Alors que Jésus est là, il parle à la foule, il va parler des scribes et des pharisiens à ce moment-là. » C'est dit que c'est le verset 2, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que ces pharisiens-là déclaraient, faisaient de bonnes choses, disaient de bonnes choses, mais qu'ils ne pratiquaient pas ce qu'ils déclaraient ou ce qu'ils disaient, ou encore ce qu'ils pratiquaient n'avait pas le but de glorifier Christ, mais d'apporter une propre gloire à l'intérieur de leur propre vie. C'est ce que le texte continue en disant. Ça dit qu'ils faisaient ces actions en fonction que les gens les reconnaissent, qu'ils aient les premiers sièges, qu'ils aient une reconnaissance de la part de l'humanité et des gens qui étaient là autour d'eux. Mais en fait, la parole de Dieu, elle est là, non pas pour démontrer notre connaissance, ou non pas même pour qu'on s'en serve comme on voudrait, mais tout simplement afin qu'elle change et qu'elle transforme nos vies. Qu'elle change et qu'elle transforme nos cœurs, qu'elle nous amène dans cette relation, dans cette intimité, dans cette communion. Parce que la parole de Dieu, alléluia, c'est un miracle. La parole nous parle dans le texte d'Isaïe qu'elle est miraculeuse, cette parole-là, qui a une déclaration miraculeuse. Dans Isaïe 55, le verset 13, ça dit « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce se croîtra le myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire. » Dans une autre traduction, ça dit ceci, « Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrrhe, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. » Dans ce texte-là, il y a une pensée assez importante que je veux nous amener à ce matin. Lorsqu'on regarde dans le texte, il est dit qu'il va y avoir la neige qui va tomber du ciel, la pluie et tout ça. Et on peut s'attendre que la pluie qui va arroser, par exemple, une plante, un arbuste, on s'attend que la pluie, le soleil, que l'engrais, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va grandir. Mais dans la dimension ici, ce qui est miraculeux, c'est que non seulement, en fait, ils ne grandiront pas, mais ils vont être changés. Il y a comme un genre de transformation pleine et entière. Le Seigneur n'améliore pas dans le texte les épines. Le texte dit que plutôt, il va élever un cyprès. C'est totalement une autre plante, c'est autre chose. Dieu est en train de dire qu'il y a une transformation, que la parole qui est là, qui est donnée de la part de Dieu, n'amène pas seulement une croissance, mais amène un changement, une transformation. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, il y a cette dimension-là qui est amenée par rapport au fait qu'il y a ce changement, le renouvellement, la transformation de notre intelligence. Même la parole de Dieu nous dit. Et il y a cette dimension qu'elle accomplit à l'intérieur. Vous savez, la parole de Dieu ne fait pas de nous quelqu'un de meilleur. elle fait quelqu'un de nous quelqu'un de nouveau. Elle fait pas seulement quelqu'un de nous rendre mieux, mais elle fait quelqu'un de nouveau. Elle fait de nous des enfants de Dieu, bien sûr, par le sang de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu déclare à nos vies et nous amène dans ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Des fois, la parole peut améliorer les choses dans la société ou autour de nous, dans notre maison. Mais en fait, ce que nous devons vouloir d'abord et avant tout, c'est qu'elle change et qu'elle transforme notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon de faire les choses, notre façon d'être avec les gens. Vous savez, la Bible dit, alléluia, qu'à certains endroits, dit les gens disent ou les choses disent. Mais Jésus va dire, mais moi, je vous dis ceci. Et c'était totalement le contraire ou différent de ce que les choses pouvaient être annoncées à travers ses enseignements. C'est-à-dire de ce que l'être humain pouvait enseigner. La parole de ce que Jésus-Christ déclarait en était une de vie, en était une de changement, de transformation dans la vie des gens. Et le miracle ici, alléluia, c'est qu'au lieu des épines, il va s'élever le cyprès, au lieu des ronces, il va croître. Alléluia, le myrte, Dieu va faire quelque chose de complètement nouveau. Et non seulement cela, mais à travers cette parole-là, le texte dit qu'il va y avoir la paix. Il faut comprendre que le peuple de Dieu, à ce moment-là, était dans une dimension un peu problématique dans laquelle ils étaient. Le peuple d'Israël, bien sûr, il y avait une certaine où ils étaient asservis par les Assyriens. Il y avait un contexte dans lequel le peuple de Dieu se retrouvait à ce moment-là. Et dans le texte, c'est dit qu'ils sortiront avec joie et vous serez conduits en paix. Il y aura une dimension de joie et de paix que la parole de Dieu amènera et semera à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Bien souvent, nous avons besoin, dans toutes les situations dans lesquelles on se retrouve, nous avons besoin de recevoir cette paix-là, cette joie-là de la part de Dieu. J'ai prêché il y a quelque temps sur l'importance de la joie, que c'est un principe ou plutôt un miracle divin que d'avoir la joie de Dieu à travers certaines circonstances. Et que Dieu veut déployer cette joie-là. Et Dieu est en train de dire au peuple que cette parole-là qui revient à lui, alléluia, avec puissance, elle a accompli, elle avait une mission. Et si la parole de Dieu, alléluia, avait cette mission de déployer dans ta vie, bien sûr, une transformation, un changement, mais aussi de t'amener et de nous donner la paix et la joie de Dieu. Je réalisais dernièrement que tout ce que Dieu est, alléluia, c'est ce que je peux croire. Tout ce que Dieu, je n'ai pas à croire bien des choses, j'ai seulement à croire ce que Dieu est. Et à travers ça, le Seigneur est celui qui le fait, le Seigneur est celui qui l'accomplit, qui veut le faire et le déployer à l'intérieur de nos vies. Et comment cette parole-là va-t-elle se déployer dans toute sa puissance à l'intérieur de nos vies? Comment elle va pouvoir se déployer dans toute sa puissance? Parce que lorsque le texte dit qu'elle va arroser la terre, qu'elle va simplement germer, elle va avoir accompli, le texte dit que ça va être comme cela à l'intérieur. Mais si on le veut, comment elle va déployer sa puissance à l'intérieur de nos vies? Premièrement, c'est en recevant cette parole-là. En recevant cette parole-là, à l'intérieur de nos vies, être prêt à croire et à recevoir cette parole-là à l'intérieur de nos vies, de la saisir, d'avoir un cœur, pas seulement pour écouter. Pour moi, recevoir, écouter, c'est une façon de recevoir. Mais je veux ici amener vraiment la dimension, alléluia, de recevoir à l'intérieur de notre cœur. La parole de Dieu amène vraiment, elle va parler dans un sens qu'elle est une épée où on va pouvoir utiliser. Ça parle de cela dans Éphésiens. Mais avant d'abord et avant tout de pouvoir utiliser cette parole-là, nous avons besoin de la recevoir à l'intérieur de nos cœurs, de recevoir ce que Dieu veut nous dire, pas la tordre à notre façon comme on voudrait, ce que l'on voudrait qu'elle dise, ce que l'on voudrait qu'elle fasse pour la vie des autres, pour la vie de notre conjointe, nos enfants, les personnes qui nous entourent, mais être prêt à la recevoir avec simplicité. Je pense que trop souvent, nous compliquons la parole de Dieu, alors que l'on a besoin de la recevoir à l'intérieur. Dieu, cette parole, que ce soit de façon prophétique, que ce soit de lire la parole, que ce soit une parole que Dieu déclare à l'intérieur de notre cœur. J'ai besoin de la recevoir. Comment je vais la recevoir? En laissant la parole de Dieu, le Saint-Esprit, parler à mon cœur. En laissant Dieu parler, en méditant la parole de Dieu, de prendre un texte, de le méditer, de simplement en faire ressortir. Des fois, j'aime prendre juste un texte, un verset, deux, peut-être quatre, cinq versets d'ailleurs, comme ce texte-là qu'on a lu ensemble dans Isaïe, et de juste prendre le texte et de simplement m'arrêter et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi à travers ce texte-là? Qu'est-ce que tu veux parler à mon cœur à travers ce texte-là? Seigneur, comment je peux le recevoir? Comment je peux le méditer? » Et je commence à ressortir des vérités de ce texte-là à l'intérieur de ma vie. Seigneur, et de commencer à prier, à demander à Dieu que cette parole-là puisse arroser mon cœur, qu'elle puisse arroser ma terre, Seigneur, qu'elle puisse me donner non pas d'être meilleur, mais plutôt d'être changé. Peut-être que trop souvent, j'ai prié que Dieu me rende meilleur. J'avais besoin que Dieu, alléluia, de prier que Dieu me change. Pouvoir la méditer, la lire, prendre du temps chaque jour, le plus souvent possible, pour lire la parole de Dieu, reconnaître que c'est le livre que l'on a besoin, alléluia, la parole que l'on a besoin pour notre vie, pour nos situations de vie, de regarder dans nos situations de vie. Seigneur, qu'est-ce que ta parole déclare à travers ça? De faire, de l'étudier, de pouvoir prendre peut-être même des cours bibliques, de s'arrêter, mais d'étudier la parole, de prendre un moment pour recevoir, pour lire, de permettre au Seigneur de nous parler à travers ce texte-là. À nous, à l'intérieur de notre vie, bien des fois, vous savez, en tant que pasteur, on peut avoir l'impression, ou des fois on peut s'arrêter à lire la parole seulement pour ce que je vais prêcher dimanche. Ça a-tu l'air de ça? Mais c'est un défi. Et on a besoin de faire attention parce que des fois, on lit la parole de Dieu, alléluia, pour seulement pour les autres. Seigneur, ah, ça va donc faire une bonne prédication, mais je veux vous dire que presque dans tous les cas, avant que je prêche, ta parole de Dieu, elle a eu un impact dans ma propre vie. Bien souvent, j'ai pleuré sur ces textes-là. Bien souvent, je me suis repenti dans ces textes-là. Bien souvent, j'ai permis, alléluia, ou plutôt, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu le fasses d'abord et avant tout. En moi, il y a des textes, des choses que je prêche, que le dimanche matin, que ça fait des mois que je réfléchis, que je prie pour ma propre vie. Alléluia, et je veux vous dire, il y a plein de choses que je ne prêche pas, puis qui pourtant le Seigneur parle à mon cœur à travers les dimensions, qui je sais que c'est pour ma vie personnelle à moi, où le Seigneur est celui qui veut faire cette œuvre-là à l'intérieur de nos vies. Mais c'est facile de lire nos Bibles, de lire ma parole pour ma conjointe, de lire pour mes enfants, puis qu'est-ce que je vais dire, puis qu'est-ce que je vais dire au patron, puis comment je vais faire, puis qu'elle va être enseignée, parce que là, il y a une situation de conflit dans la situation. En fait, j'ai pas besoin de lire la parole pour ce que je vais lui dire. J'ai besoin de recevoir la parole pour que d'abord et avant tout, elle me change, moi. Dans mes émotions, dans mes sentiments, peut-être dans un manque de pardon, dans la colère, dans la chose qui est là. D'ailleurs, on ne devrait pas faire les choses avant que la parole de Dieu nous ait changé. Et quand je dis cela, ce n'est pas changer qu'on soit parfait. Mais si, par exemple, il y a de l'amertume dans mon cœur, je ne devrais pas aller voir la personne avant que Dieu n'ait pas changé mon cœur. Parce que ce qui va sortir, je vais vous dire ceci, c'est pas la parole, mais c'est du venin. C'est mon amertume qui va sortir. Ce qui va goûter, c'est ce qui va être amer. Mais on a besoin, alléluia, que Dieu nous change et nous transforme. De la recevoir, de simplement le dire, de désirer à l'intérieur de nos vies. Il y a un texte dans la parole que j'aime beaucoup avec Pierre. Dans Luc chapitre 5, et regardez bien le contexte dans lequel on se retrouve ici, frères et sœurs. Pierre est là, Jésus est dans la direction pour le choix de ses apôtres, et alors qu'il se retrouve là, il va se retrouver dans une situation, ça dit qu'il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Alors, il embarque dans la barque de Simon. Puis là, quand il embarque dans la vague de Simon, il commence à dire, Simon, on va prêcher, je vais prêcher à la foule, je vais enseigner la foule, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de proclamer la parole de Dieu à la foule. Le mieux, ceux qui sont aux premières loges, c'est qui? C'est Pierre, qui est dans la barque, qui est là. Avec lui, il dit « avance en pleine eau ». Il dit, il le pria de s'éloigner un peu, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Le texte dit pas combien de personnes il y avait, mais le texte dit au moins qu'il y avait une foule qui était là. Et dans cette foule-là, alors qu'il y avait probablement des gens qui étaient près du rivage, il y avait des gens qui étaient plus loin, puis il y avait Pierre qui était là, Pierre qui était assis dans la barque. Je ne sais pas comment il réagissait devant l'enseignement qui était là, mais c'était une foule. Et puis des fois, que la foule reçoive, que les gens disent des choses, ça peut sembler pour tout le monde. Mais à un moment donné, alléluia, la parole de Jésus-Christ s'adresse directement à Pierre. S'adresse à Pierre directement. Et ça dit, à ce moment-là, lorsqu'il eut cessé de parler, ça dit, il dit à Simon. Et là, la parole amène Simon dans une dimension d'obéissance et de foi. Pour toi, Simon. Et vous savez ceci, ce qui est intéressant avec Simon, c'est arrivé à plusieurs reprises à l'intérieur de sa vie. C'est arrivé, par exemple, quand il a dit à Jésus, « Jésus, c'est toi, permets-moi de sortir de la barque quand il y avait la tempête. » Jésus va dire, « OK, Pierre, viens me rejoindre. » Là, c'est plus les douze, c'est plus les ceux qui sont dans la barque, mais c'est Pierre. Et on a besoin que Dieu s'adresse à nous directement. Mais j'aimerais nous dire en même temps, alléluia, que Dieu, quand Dieu s'adresse à nous directement, quelquefois, ça peut être assez peurant. Quelquefois, ça peut nous exiger de l'obéissance et de la foi. Quand c'est pour tout le monde, on se confond bien dans la foule. On se sent bien dans ce que Dieu dit à une foule. Mais quand Dieu commence à parler à mon cœur, quand Dieu commence à parler à notre vie, à notre cœur, à nous, pour s'adresser à l'intérieur de notre propre vie, les choses changent. Et Dieu, Jésus-Christ, dit à Pierre, à ce moment-là, « Pierre, maintenant, alléluia, c'est à toi, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Maître, tu nous demandes de faire quelque chose qu'on a fait pendant des heures. Pendant des heures. Toute la nuit, on a jeté nos filets, puis rien s'est passé. » Probablement que Pierre, dans ce bout de texte-là et de ce qu'on voit, je pense pas que le gars, ça y tentait de jeter ses filets. Je pense qu'il n'avait là, de jeter les filets, puis de... Vous savez ceci, comprenez bien ceci. Toute la nuit, probablement Pierre, à chaque fois qu'il jetait les filets, c'était quoi? J'espère qu'il va y avoir quelque chose. Ça n'a pas marché, mais on va le croire que peut-être cette shot-là va être la bonne. Puis tu la jettes, puis c'est pas encore la bonne. Puis tu la jettes une autre fois en te disant, ben, peut-être ce coup-ci, on va empoigner quelques-uns. Puis tu la jettes une autre fois, puis c'est pas encore la bonne. Puis là, toute la nuit, tu fais ça juste, puis là, il arrive le temps, c'est au matin, puis Pierre vient sur le bord, Jésus embarque dans la barque, puis tu dis, bon, OK, on va... Puis là, Jésus dit, OK, on va aller, puis on va jeter les filets. Puis là, Pierre dit, non, toute la nuit qu'on l'a fait. Toutes les fois, je me suis dit, c'est le bon coup. Mais c'était jamais le bon coup. Mais le texte dit quelque chose qui est intéressant. C'est que Pierre l'a pas fait parce qu'il pensait. Dieu l'a pas fait. Pierre l'a pas fait parce qu'il croyait quelque chose. Mais il l'a fait parce que Jésus l'a déclaré. Et le texte dit à ce moment-là, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, j'ai pas l'impression que les choses vont changer, que les choses vont être transformées, mais parce que tu le dis, je vais le faire. J'ai pas envie, j'ai pas le goût de, mais je vais le faire et je vais l'accomplir parce que tu me le demandes. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut s'adresser à nous? J'aimerais te défier, mon frère, ma sœur, ce matin. Est-ce que tu es ici et Dieu a parlé à ton cœur par rapport à quelque chose? Est-ce que le Seigneur a défié ta vie à l'intérieur de ta vie? Ça dit à ce moment-là qu'ils ont jeté Pierre sur la parole et à ce moment-là, alléluia, c'est une parole rendue réma. Et je veux vous dire ceci, dans la dimension du réma ici du texte, c'est une dimension d'une parole adressée vivante pour la personne de Pierre. Elle est rendue réma dans la vie, dans la personne de Pierre. Ça dit, l'ayant jeté à ce moment-là, verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors, il y a vraiment la dimension de ce que Dieu est celui qui veut le faire. Et on a besoin que la parole de Dieu puisse défier nos vies, qu'elle puisse changer, transformer, mais nous défier à l'intérieur de nos vies. Parce que cette parole-là, c'est une parole qui s'adresse à nous personnellement. C'est pas juste bon pour mes enfants. C'est pas juste bon pour mon épouse. C'est pas juste bon pour les gens dans l'Église. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est importante, elle est vitale pour ma vie. Elle a besoin de changer, transformer ma vie à moi. Elle a besoin de changer nos cœurs à nous. Parce que cette parole-là, c'est une parole qui parle à nos cœurs, qui parle à nos vies. Et on a besoin de cette parole-là à l'intérieur de nos vies. Parce que Dieu est celui qui veut le faire. Je vais vous parler d'un homme. Alors, peut-être avant, je vais juste lire ce texte. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il dit, l'Éternel dit, « Ne prends point garde à son apparence. » Dieu parle à Samuel en ce qui concerne un nouveau roi. Il dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La dimension de la parole que Dieu t'adresse, c'est, alléluia, c'est d'adresser ton cœur. Dieu dit, alléluia, nous, on voit, ce que l'on voit, nous, des gens, c'est leur succès, c'est leur défaite, leurs possibilités ou leurs impossibilités. On voit leur apparence, on voit leur timidité, leur franchise, on voit les choses. Mais la réalité, c'est ce que l'on voit, alléluia, c'est souvent de ce qui est extérieur. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Samuel. Mais moi, je connais le cœur. Et la parole de Dieu veut s'adresser à ton cœur et elle veut faire une différence dans les situations de ta vie dans laquelle tu es. Je vais vous parler de cet homme. Alléluia. Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann, c'était, alléluia, un journaliste et un écrivain. Et alors qu'il avait été envoyé par un magazine pour faire un reportage au Liban, il a été enlevé à Beyrouth avec une autre personne. C'était le 22 mai 1985. Et cet homme-là a été amené un otage, merci. J'entendais, mais là, j'entendais pas. Un otage. Alors, il est amené comme un otage. Et l'histoire dit, il raconte, qu'il a été enroulé dans un tapis, ou même il tombait à sa connaissance, pensait de mourir et tout ça. Il a été amené pendant quelques années. En fait, il a été libéré le 4 mai 1988, c'est-à-dire presque 3 ans, dans les conditions extrêmes de sa vie, là. OK? De tout ce qu'un otage peut vivre dans ces pays-là. Et à un moment donné, il dit ceci, il raconte l'histoire, qu'à un moment donné, alléluia, il avait obtenu, il dit lui-même ceci, j'ai obtenu une Bible 1 an et 1 mois après mon enlèvement. C'était en juin 1986, et je m'en souviens avec une très grande exactitude. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que le ciel m'envoyait un radeau qui allait changer ma condition de captif. D'expérience, je savais que c'était un livre absolu, qui se prêtait à toutes les situations, répondant à toutes les attentes d'un être humain face aux problèmes de l'existence. J'étais persuadé que j'allais amoindrir notablement la souffrance et le poids de cette détention. J'ai connu quelques moments de bonheur au fond de ce trou. L'octroi de la Bible fut l'un de ceux-là. Alors qu'il est là en otage, il dit le moment où il a reçu cette Bible-là a créé un espoir de recevoir, de pouvoir lire cette parole-là. Et ça l'a amené, alléluia, dans une dimension de connaître Jésus-Christ. Alléluia, dans une dimension, et là, je pourrais mentionner certaines autres choses, mais il est simplement amené que la dimension, la parole de Dieu, elle est là dans les moments les plus incroyables de nos vies. Elle est là pour qu'on puisse la recevoir. Mais alléluia, qu'on puisse la lire. La parole de Dieu, elle est vraie pour aujourd'hui, pour la dimension à l'intérieur de ta vie. Alors, on a besoin de juste la recevoir. Permets à Dieu de s'adresser à ta vie. Comment il va déployer la puissance? En croyant la parole de Dieu. Isaïe 55, le verset 12 dit, « Et vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en la paix. » Tantôt, j'ai mentionné un peu la condition du peuple de Dieu à ce moment-là. Vous savez, le Isaïe 40, verset 27 dit ceci. « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Cette parole-là déclare la situation de ce que le peuple vivait à l'intérieur d'elle-même. Alors, lorsque dans Isaïe, chapitre 55, c'est une promesse que Dieu est en train de dire, qu'il déclare. Il est en train de dire que la promesse qu'il fait au peuple, elle va revenir à lui et qu'elle va accomplir la mission et la destinée. Je vais vous dire que, à travers ce texte-là d'Isaïe, Dieu veut amener son peuple à croire et avoir la foi pour croire ce qu'il veut faire et ce qu'il veut accomplir. Et on a besoin de croire la foi. Vous savez ceci, la parole de Dieu dit que je suis pardonné, alors j'ai besoin de croire que si je demande pardon, je suis pardonné. La parole de Dieu dit, alléluia, me donne de croire, alléluia, que si j'ai besoin d'être guéri, la Bible dit, je veux le croire. Si la parole dit de ce que j'ai besoin de pardonner, je veux croire que Dieu me rendra capable de pardonner. Si la parole de Dieu déclare que Dieu est avec moi, je veux croire que Dieu est avec moi. Je veux croire la parole. Lorsque je lis la parole, je veux la lire avec une foi de croire ce qu'elle déclare pour ma vie, ce qu'elle déclare à l'intérieur de ma vie. J'ai besoin de la croire comme un enfant, avec simplicité. Parce que trop souvent, avec la foi de ce que notre frère a parlé la semaine dernière, que trop souvent, on commence à réfléchir, puis là, la chose elle nous amène à tout totalement passer aux côtés de ce que Dieu veut faire et accomplir à l'intérieur de nos vies. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir? Bien sûr, Dieu nous a donné une intelligence. Mais des fois, la foi dans sa parole, alléluia, est plus grande que notre intelligence. J'ai besoin de la croire, j'ai besoin de la saisir, j'ai besoin de la voir comme un simple enfant et de dire, Seigneur, je veux la saisir avec simplicité. La parole de Dieu va nous dire alors que les gens vont amener les enfants qui vont être là, les disciples vont essayer de les tasser. Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Et la Bible dit que ces gens, il y avait des gens qui avaient amené les enfants afin que Jésus prie pour eux. Parce qu'ils croyaient, alléluia, ces gens croyaient que Jésus pouvait faire la différence dans la vie de ces enfants-là. On a besoin de croire, de saisir avec foi la parole et de savoir qu'elle est pour nous, qu'elle est pour nos vies et qu'elle est pour aujourd'hui ces hommes dans la parole qu'ils ont accomplie, qu'ils ont fait. Ils ont reçu la parole pour leur vie, ils l'ont reçue avec foi. Et on a besoin de la recevoir avec foi. On a besoin de la saisir avec foi. Dans nos situations, il y a des principes qui vont nous amener de pouvoir la mettre en pratique parce qu'on croit que Dieu est celui qui va entreprendre. Je veux dire, j'aimerais nous dire ceci. Comment on peut, il y a des principes dans la parole de Dieu. Comment on peut croire qu'on va être capable de pardonner si je ne crois pas que Dieu va le faire à l'intérieur de ma vie? Comment je vais croire que Dieu va pourvoir à mes besoins si je suis fidèle? Alléluia, puis que déjà les choses sont difficiles. Comment je vais faire pour croire que Dieu va entreprendre quand les choses vont pas bien? Comment je peux croire dans la situation de ce qui a été dit ce matin dans la parole prophétique? Comment je peux croire alors que tout va pas bien? Comment je peux croire que Dieu est celui qui va prendre les choses et que le Seigneur va accomplir fidèlement comme il veut le faire? Si je n'ai pas la foi, comme un simple enfant, Seigneur, tu me parles ce matin à travers ta parole, à travers la Seigneur, je la reçois à l'intérieur de ma vie comme un enfant. Troisièmement, elle va accomplir la puissance lorsqu'elle va être mise en pratique à l'intérieur de nos vies. En Jacques, chapitre 1, le verset 22, ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ici, le mot mettre en pratique, alléluia, c'est le mot de devenir quelque chose. Il y a pas seulement une dimension de faire quelque chose, mais il y a une dimension que la pratique nous amène à être quelque chose. Alors, elle est pas le texte de Jacques n'est pas d'abord et avant tout dans la dimension d'accomplissement, mais elle est plutôt dans la dimension que la mise en pratique nous donne d'être quelque chose, nous donne de simplement accomplir quelque chose, nous donne de simplement faire les choses comme Dieu veut qu'on puisse le faire et l'accomplir à l'intérieur de nos vies. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. On doit devenir, alléluia, dans cette existence-là, d'exister, d'accomplir ce que la parole de Dieu nous demande d'accomplir et de faire. Dans Genèse, chapitre 2, 22, le verset 1 et les versets suivants, Jésus va, pas Jésus, mais Dieu va parler à Pierre, Jésus aussi, le Père va parler à Abraham, dans la dimension d'offrir son fils en sacrifice. Il y a une dimension pratique à laquelle Dieu l'appelle, cet homme-là. Mais en même temps, c'est une dimension qui est pas facile. Mais il y a quelque chose que le texte dit dans la suite. Il dit ceci, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham répondit, me voici. Et à ce moment-là, et le verset 3, alors que Dieu a parlé à Abraham, c'est dit, Abraham se leva de bon matin. Il s'est empressé de faire et de mettre en pratique ce qui était l'impensable de mise en pratique. Est-ce qu'on est d'accord? Qui était l'impensable de la mise en pratique, d'offrir son fils. C'était impensable, c'était inimaginable, et Dieu va faire que son fils va être épargné. Mais ils vont voir la gloire de Dieu. Là. La mise en pratique d'Abraham lui a donné de voir la gloire, la puissance de Dieu, de ce que j'ai dit tantôt, qu'elle ne reviendra pas à moi sans effet. La mission par rapport, alléluia, lorsqu'on regarde de la parole de Dieu envers Abraham, n'était pas seulement d'offrir son fils, mais la mission était aussi que, alléluia, Abraham et Isaac découvrent la puissance de ce que Dieu était pour pouvoir et entreprendre à l'intérieur de la vie d'Abraham et d'Isaac. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il est mentionné, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pratique est là. J'aimerais nous dire ceci. Les parents dans cette église, Dieu ne nous appelle pas d'abord et avant tout, alléluia, à enseigner la parole. Dieu nous demande de la vivre dans notre maison. Dieu ne nous demande pas d'abord et avant tout. Il y a un principe. Bien sûr, la Bible dit d'enseigner, d'instruire nos enfants. Mais une instruction sans vie, c'est une lettre qui est morte. Quand je dis vécu, c'est pas parce qu'elle est parfaite, c'est pas parce qu'on ne chute jamais. Mais parce qu'on veut la vivre, parce que c'est ce qui est l'autorité dans le centre de nos maisons et de nos vies et de nos familles. Le texte dit que cette maison-là qui est construite, qui entend la parole, qui la met en pratique, est bâtie comme une maison, est un homme prudent. Alléluia, qui est un homme prudent, qui bâtit sa maison sur le roc. La tempête va venir, mais la maison va subsister. Pourquoi? Parce qu'il va avoir mis en pratique la parole de Dieu. Je termine en disant ceci ce matin. Non, on va chanter le troisième chant aussi. On a besoin de pratiquer la parole de Dieu, de la mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. Parce que la parole, alléluia, c'est la parole dont Dieu nous parle. La parole, alléluia, une parole que Dieu a pour chacun d'entre nous dans notre foyer, dans notre maison. Il y a un texte dans Matthieu, alléluia, chapitre 24, verset 35, qui dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous savez ceci, plein de choses peuvent arriver, plein de choses peuvent se passer, mais la parole de Dieu dans ta vie subsistera. Plein de choses pourront, des gens pourront te tasser, pourront te blesser, des gens pourront dire que c'est pas vrai. Mais alléluia, ce qui restera dans ta vie, ce sera la parole. Ce qui restera dans ta maison un jour, tes enfants quitteront le foyer pour aller établir leur leurre. Ce qui restera dans ta maison, ce sera la parole que tu auras établie dans ta maison. Qui aura pris place, qui aura changé et transformé ton cœur, qui aura transformé ta vie, qui aura changé, qui ne t'aura pas amélioré d'abord et avant tout, mais qui t'aura changé. Plein de choses peuvent arriver, plein de choses peuvent se passer, plein de situations peuvent prendre place, plein de choses peuvent arriver à l'intérieur de nous. Mais à travers ces situations-là, ce qui me restera sera la parole de Dieu. Ce sera ce que l'on aura besoin à l'intérieur de nos vies. Parce que les choses changeront. Et la parole de Dieu, alléluia, demeurera. Les choses vont passer. Les années vont avancer. Jusqu'au retour du Seigneur. Et jusqu'à ce moment-là, alléluia, la parole de Dieu va demeurer. Ce matin, j'aimerais terminer chantant ce chant. Alléluia, est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé dernièrement dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déclaré dans ta vie depuis un certain temps? Qu'est-ce que Dieu adresse dans ton cœur? Et peut-être que tu es dans ce lieu ce matin et tu dis, pasteur, ça fait un bout de temps que le Seigneur va parler à mon cœur. La réalité, c'est est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Je crois que Dieu, alléluia, est celui qui veut parler à nos cœurs. Que Dieu est celui qui veut se révéler à nous. Que Dieu est celui, alléluia, qui par sa parole veut nous parler à travers les situations particulières que l'on trouve, que l'on vit. Ce matin, peut-être tu es dans ce lieu. Tu as besoin de revenir aux sources de cette parole-là. Les statistiques disent que beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible quotidiennement. Que plein de gens passent leur semaine et le seul moment où ils entendent la parole, c'est le dimanche matin ou un autre contexte. Ils ne la lisent pas pour eux-mêmes. Je veux juste te dire ceci. Probablement, messieurs ou mesdames, vous avez écrit des belles lettres d'amour à votre mari ou à votre conjoint. Est-ce que c'est vrai? Combien est-ce qu'il y en a encore à la maison de ça? J'aimerais ça que vous en emmenez une dimanche prochain, je vais la lire. Vous. Je pense pas que ça vous tente. Pourquoi? Parce que c'était adressé à quelqu'un en particulier qui déclarait vos émotions, vos sentiments, votre cœur pour cette personne. Et vous savez ceci, c'est le désir de Dieu pour ta vie, mon frère et soeur. T'envoyer une lettre d'amour chaque jour, chaque semaine, se révéler à toi. Et alléluia, Dieu peut parler publiquement. Mais alléluia, c'est pas parce qu'il t'a reçu publiquement que tu peux pas recevoir personnellement. Parce que lorsque tu prends la parole, que tu lis la parole, que tu t'arrêtes, que tu commences à regarder, puis de simplement lire, puis de dire, aujourd'hui, Seigneur, c'est entre moi et toi. Aujourd'hui, ce matin, Jésus, c'est ta parole que je suis en train de lire pour ma vie, Seigneur. Je suis en train, alléluia, de la recevoir pour ma vie personnelle, sachant que tu es le Dieu qui peut parler à mon cœur. Parce que Dieu, c'est à toi. Je pense que cette lettre-là, ce livre-là, c'est un livre, alléluia. Bien sûr que tout le monde va lire. Lundi matin, cet après-midi, on va tous lire dans le même livre, la même Bible. Et le Saint-Esprit va la prendre, va la rendre vivante dans mon cœur. Amen. Et alléluia, ça va être pour toi, ça va être pour ta personne, pour ta situation dans ta maison, pour ta situation, alléluia, dans ton couple, pour une situation au travail. Elle va peut-être être même prophétique, où elle va déclarer des choses avant même qu'elle arrive, où Dieu va préparer de comment tu devrais être, va parler à ton cœur de comment tu devrais être dans la situation. Puis une situation va se passer dans ta vie, dans ta maison, dans ta journée. Et la parole de Dieu va déjà prophétiquement avoir parlé à ton cœur. Est-ce que c'est une parole qui est vivante dans ta vie à toi? Tu as besoin de la lire comme une lettre d'amour. Alléluia. Si tu prends la lettre que ton épouse t'a écrite, déjà à la base, c'est comme tu n'as pas ouvert l'enveloppe et tu penses que c'est une lettre de bêtise, c'est possible que tu la rouvres. Je vais vous dire ceci, trop souvent on a vu la lire de cette façon-là.
Puis savez pourquoi? C'est la façon dont le monde voit la Bible. Comme un livre qui dit que tu n'as pas le droit de faire. Comme un livre qui dit que tu ne peux pas faire. Comme un livre qui dit, alléluia, que Dieu est un Dieu qui est plein de colère, de jugement, d'amertume, d'un Dieu qui veut punir tout le monde. Alors que c'est, alléluia, une déclaration de comment Dieu veut se révéler à l'humanité, de comment, alléluia, bien sûr, veut changer, veut transformer nos vies, veut changer nos cœurs. Et, alléluia, j'aimerais demain matin, quand, n'importe quand tu vas réouvrir ta Bible, que tu dises aujourd'hui, Jésus, c'est entre moi, je veux la recevoir, je veux la croire, et Seigneur, tu vas me rendre capable de la pratiquer. Seigneur, puisses-tu nous rendre, nous aider, Saint-Esprit, parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin. On va terminer avec ce chant ce matin, on termine. Alléluia. Que Dieu soit celui qui l'accomplit, qui le fait à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Ce qu'on va faire ensemble, on va chanter... de tout mon cœur, je t'offre tout, Seigneur. Toi, trouver en Christ Jésus. Alléluia. Et on va terminer en chantant de votre main. Chantons-le de tout notre cœur avec foi et avec vie. Et ce matin, alléluia, que Dieu puisse parler à mon cœur. Peut-être un besoin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que la parole de Dieu parle à ton cœur.